J'ai dû louper un épisode. Les interviews de Pascal Fourier avec Dany Robert Dufour, philosophe, auteur de L'individu qui vient après le libéralisme, publié chez De Noël. Troisième partie de notre entretien. Je vous synthétise les épisodes qui précèdent. C'est simple, ou presque. L'époque moderne, qui va du XVIIIe siècle à 1980 environ, a vu la remise en cause des deux discours qui structuraient la pensée occidentale depuis deux millénaires. Le récit du Logos, venu de Grèce, qui incitait à la maîtrise des passions, et le discours venu de Jérusalem, poussant à la limitation de l'amour de soi. Pendant deux siècles, va alors s'engager une lutte entre les lumières anglaises, le libéralisme, dont le maître mot est « fais ce que tu veux, ça sera bon pour tout le monde, quoi qu'il en soit », et les lumières allemandes, qui, elles, préservent la régulation morale. On en était là avec Dany Robert Dufour dans l'explicitation de cette lutte inachevée. Et alors, je piétinais. La postmodernité dont il m'avait promis de me parler dès la première partie, j'attendais. Alors je lui ai dit. Troisième et dernière partie donc de l'entretien avec Dany Robert Dufour.
Mon champ, c'est effectivement, vous avez raison, celui de la réflexion sur la postmodernité. Alors, la postmodernité, c'est un concept philosophique qui a été inventé par Jean-François Lyotard, philosophe, qui a sorti en 1979 un livre qui s'appelle « La condition postmoderne ». Et pour aller vite, il définit la condition postmoderne comme la chute, la fin de tous les grands récits. Les récits de l'Antiquité, grecque et latine, c'est-à-dire le Logos, le monothéisme, et les récits modernes, qui sont ceux des Lumières allemandes, pour l'essentiel, à savoir le récit de l'émancipation de la, disons, de l'autonomie de pensée, c'est Kant, hein, de l'oser penser par soi-même, le récit de l'émancipation collective par Marx et les autres récits socialistes et anarchistes, et le récit de l'émancipation personnelle, disons, par le freudisme. Il dit donc, en 1979, que tous ces grands récits sont donc morts, ou en voie de disparition. Ça ne veut pas dire que tous les gens, il y a encore des gens qui y croient, etc., mais ne sont plus, disons, ce qui est au cœur du social, ce qui informe le social. Donc, il parle de la chute des grands récits. Donc, moi, j'ai beaucoup travaillé sur cette période parce que j'étais très rapidement d'accord avec cette remarque de Lyotard, donc 1979, et le fait que, comme je vous le disais, arrive six mois plus tard, en 1980, l'installation d'un ultralibéralisme mondial avec autre chose qui se met en place, qui oublie complètement donc le souci de l'autre, pour ne mettre en place que le souci de soi, et le souci de soi, il y a aussi le souci d'enrichissement personnel, me semble bien correspondre à cette époque postmoderne. Alors, je suis donc complètement d'accord avec Lyotard pour dire que c'est la chute des grands récits passés. Mais en même temps, je me suis permis de rajouter quelque chose à Lyotard, pas pour faire mon petit malin, mais pour rajouter quelque chose qu'il n'avait pas pu voir encore en 1979, qui était, c'est la chute des anciens grands récits, mais c'est la mise en place d'un nouveau grand récit, d'un nouveau type, qui est le récit de l'exclusif souci de soi et de l'exclusif amour de soi. Donc nous passons au fond des religions anciennes, si vous voulez, religions politiques, religions monothéistes, religions religieuses, etc. Nous passons à une sorte de nouvelle religion, qui est la religion donc du marché, comme le cadre général dans lequel on doit pouvoir penser toutes les affaires humaines. C'est exactement ça qu'on entend par postmodernité. Donc, du moins, moi, ce que j'entends. J'entends ce qu'entend Lyotard, et je rajoute un bout en plus. C'est la chute de tous ces grands récits, mais en même temps que c'est la chute, c'est l'émergence d'un nouveau type de grands récits. tout nouveau type de grand récit, qui nous déconcerte beaucoup, parce que, à la différence de tous les autres, il ne met plus l'accent sur le rapport à l'autre, mais uniquement sur l'amour de soi. Voilà, c'est ça que j'appelle l'époque postmoderne. Donc on pourrait dire que c'est l'époque du triomphe absolu du libéralisme anglais, qui a vaincu définitivement donc le libéralisme allemand. J'emploie parfois, pour opposer ces deux figures, du libéralisme anglais et du transcendantalisme allemand, l'image des deux chiens de faïence. Vous savez que vous avez une cheminée, et vous poussez deux chiens de faïence. Ces deux chiens de faïence sur la cheminée moderne, c'est le libéralisme anglais et le transcendantalisme allemand. Mais il y en a un qui tombe au bout d'un certain temps, il se casse, et il n'y a plus que le libéralisme anglais, c'est l'entrée dans la période postmoderne. Voilà. Avec toute la culture postmoderne. Donc l'idée qu'il faut révolutionner constamment les mœurs, jusqu'à l'idée donc que je peux absolument dire et faire ce que je veux. C'est-à-dire l'idée, au fond, c'est aussi l'idée d'une... Je peux jouir de ce que je veux. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui a un rabat-joie au niveau de la jouissance. Je trouve ça très beau quand ça mobilise l'autre aussi, la jouissance. Mais quand c'est la jouissance uniquement de soi, je trouve que c'est des jouissances à deux sous. Et nous sommes dans une époque de jouissance à deux balles. Donc c'est ça le sujet postmoderne. C'est celui qui est lancé dans des jouissances à deux balles, dans lesquelles il va se dire qu'il fait ce qu'il veut et il ne sait pas qu'il est en train de casser le lien social et d'amener l'humanité vers une sorte de butée.
Les autres grands récits n'étaient pas forcément morts chez chacun d'entre nous. Et vous avez dit, mais ils n'informent plus le social. Est-ce que... Parce que j'ai l'impression qu'il y a des résistances, enfin, dans le peuple.
Dieu merci, il y a des résistances. Oui, bien sûr. On a affaire à l'imposition d'une sorte de modèle par les industries culturelles. Mais les récits, les anciens récits de solidarité, de souci de l'autre, de rapport de considération, de respect de l'autre, de redistribution, etc., continuent toujours d'être vivants dans le peuple. Dieu merci. Le jour où ça sera mort, on sera foutu. On sera complètement foutu. Peut-être que les industries culturelles vont réussir un jour à éradiquer tout ceci et qu'il n'y aura plus que quelques fous qui se promènent en disant que... Et il faut aussi se soucier de son voisin. Peut-être qu'on en viendra là. Mais pour l'instant, Dieu merci, on n'en est pas là.
Est-ce qu'on en est au point quand même, éventuellement, je ne sais pas s'il faudrait dire volonté délibérée, mais en tous les cas, d'une volonté de création d'un homme nouveau?
Oui. On est au point de création d'un homme qui est un homme acritique, surtout qui ne pense pas, parce que penser, ça fait mal à la tête. Ça oblige à interférer sur le libre cours de ses passions et ses pulsions, donc c'est pas bon. Pour laisser aller ses passions et ses pulsions, donc faut pas penser. J'avais créé une formule à cet égard un jour, j'avais dit faut pas penser, faut dépenser. Et oui, ben c'est ça, faut dépenser parce que on remplace le sujet critique, sujet qui pense, donc qui interpose quelque chose dans le cours automatique de ses passions et ses pulsions, on le remplace par un sujet consommateur, donc qui consent, c'est bon pour le marché, sujet consommateur, je veux ceci, pas, j'achète un portable, cela, etc. Et le marché est le plus grand incitateur dans cette configuration-là, parce que le marché est celui qui, à tout moment, va proposer au sujet de la postmodernité en quête de ses jouissances à deux balles, va proposer un objet manufacturé, censé calmer ses appétences, un service marchand évidemment, qui va donc répondre à tout ce qu'il veut, et des fantasmes culturels produits par les industries culturelles. Donc le marché dit, ne vous occupez pas, je pourvois à tout. Si bien que nous sommes rentrés, donc, passés d'un sujet critique à un sujet acritique. c'est-à-dire un sujet consommateur. Et on pourrait dire que le marché, c'est devenu, avant, dans les anciennes formes, il y avait des formes qui étaient des formes de pouvoir central, un peu oppressante, un peu oppressive, avec un pouvoir qui voulait, qui exigeait, souvent à tort, souvent pour des raisons, etc., mais bon, qui voulait quand même quelque chose. Maintenant, la seule chose qu'il faut, c'est acheter. C'est bon pour le PIB français, mondial et tout ce que vous voulez. Donc, le marché est devenu une sorte de dealer, de grand dealer. Le dealer, c'est pas lui qui vous opprime, le dealer. Le dealer, il vous donne de quoi vous opprimer tout seul. Il vous donne la drogue dont vous allez devenir esclave, dont vous allez devenir dépendante, addict. Et bien, le marché, c'est pareil. Il vous donne les produits qui vous servent à vous opprimer eux-mêmes, toujours, parce qu'il faut toujours un autre produit, il faut toujours plus, il faut toujours autre chose, etc. C'est bon pour le marché, ça produit du PIB, ça comble vos appétences, donc c'est bon pour vous, c'est bon pour tout le monde. Donc vous voyez, ça produit un nouveau sujet, un homme nouveau, comme vous le disiez, légèrement psychotisant, parce que il a plus en tête des interdits. Alors évidemment, c'est emmerdant d'avoir en tête des interdits, parce que si les grands récits disaient auparavant « tu ne dois pas », vous savez, les catalogues des religions, « tu ne dois pas tuer, mentir, etc., 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 convoiter », bon, tout ça, évidemment, vous voulez quand même, mais il y a une interdiction qui vous empêche, donc vous le refoulez dans votre inconscient, et puis ça ressort d'autre façon. C'est ce qu'on appelle donc le retour du refoulé. C'est refoulé, mais ça ressort. Bon, ça fait des sujets névrotiques. Mais ça fait des sujets plus gravement atteints, puisque ça fait des sujets psychotisants. Ils peuvent tout, ils veulent tout, ils passent d'un truc à l'autre, d'un investissement à l'autre, rien n'est fixé, c'est des sujets flexibles, des sujets nomades dont on parlait tout à l'heure. Et c'est pas un hasard si Deleuze, à un moment donné, il a vu quelque chose venir, Deleuze, puisqu'en 1972, il a sorti l'anti-Oedipe, donc celui qui était sorti justement des filiations, et donc qui était le sujet nomade, le sujet flexible, qui n'obéissait donc qu'à son fonctionnement pulsionnel. Il a vu quelque chose arriver. Le seul problème, c'est qu'il s'est enthousiasmé pour ça, au lieu de le critiquer. Mais il a vu quand même quelque chose arriver. C'était son travail de philosophe, il a absolument vu quelque chose arriver. Maintenant, notre travail de philosophe, 40 ans après, c'est de dire, bon, il a vu quelque chose venir, mais maintenant, c'est à nous de fournir la partie critique par rapport à ce qui est en train d'arriver, à ce qu'il a vu venir, lui. Ce qui devait venir, c'est un sujet psychotisant. C'est donc le sujet idéal pour lui, c'était le sujet schizoïde, comme il disait. Schizo. L'éloge du schizo chez Deleuze. Alors évidemment, si vous remplacez des névrosés par des schizophrènes, vous obtenez un peu quelque chose comme ce que le marché est en train de produire. C'est un sujet psychotisant, acritique, et souvent addicté, parfois un peu pervers, parce qu'il cherche à instrumentaliser l'autre, et quand il n'arrive pas à être bien addicté ou être bien pervers, alors il déprime, et il est dépressif.
Oups, oups, oups. 10 ans de boulot ensemble avec mon fidèle mini-disque. Et il en est au point de faire des ratés quand je comprends moins bien mon invité. Je ne lui en demandais pas tant. Vraiment, excusez-le. En tout cas, on en était déjà à la notion d'homme nouveau. Et j'avais quand même bien suivi. Alors j'ai relancé Dany Robert Dufour par une petite question un peu inquiète.
Est-ce qu'on peut dire que le libéralisme est un totalitarisme ?
On peut le dire. Et on peut le dire en ajoutant que c'est le troisième totalitarisme que connaît l'Occident, la société occidentale, en un siècle. Le premier, c'était les fascismes. Et le pire, le plus virulent de tous, le nazisme. Le second, c'était les stalinismes, c'est-à-dire des communismes réels, ceux qui ont réellement existé. Et troisième, c'est le libéralisme, mais c'est un totalitarisme d'un nouveau type. Alors pourquoi ? Parce que il se trouve que dans les deux premiers totalitarismes, c'est l'individu qui est réprimé. Il est réprimé au nom, par exemple, où il doit chanter la grandeur de la race aryenne, par exemple, et donc écouter la voix du Führer, qui est comme la voix de cette race aryenne, et s'identifier donc à cette race aryenne, donc en faisant table rase de tout ce qui, dans l'individu, pourrait discuter, contrevenir à ceci, pourrait même avancer que lui aussi a ses propres revendications, devenir moins bête, devenir, je ne sais pas, enfin, tout ce qui fait l'épanouissement de l'individu, quoi. Donc c'est au nom de la race supérieure que l'individu doit se taire. Dans les stalinismes, c'est au niveau de la classe inférieure, il faut que l'individu se taise parce que il faut laisser venir les lendemains qui chantent. Donc en attendant, tais-toi. Le libéralisme, c'est un autre totalitarisme. Totalitarisme déjà parce que, comme j'ai essayé de vous l'expliquer, il diffuse non pas simplement dans une économie, comme vous l'avez très bien remarqué, dans l'économie économique, pour le dire vite, mais dans toutes les économies humaines. Économie politique, économie psychique, économie symbolique, économie discursive, économie écologique, voilà. Il diffuse partout. Donc, il y a un côté total. Et il y a un côté total qui, lui aussi, réprime tout ce qui peut apparaître comme un oser penser par soi-même dans l'individu, puisque c'est l'individu, comme je l'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est l'individu critique, l'individu donc qui ose, l'individu des Lumières allemandes, qui ose penser et agir par lui-même, qui se trouve devoir être rabattu au profit de l'individu pulsionnel, au profit de ses pulsions. Donc il ne faut plus penser, il faut laisser faire le fonctionnement pulsionnel. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un pouvoir qui vous oblige comme le stalinisme ou comme le nazisme, qui vous met dans des camps, c'est pas ça. Il fonctionne d'une façon différente, mais c'est un totalitarisme quand même. Parce qu'il vous donne tout ce qui permet de vous addicter vous-même pour ne pas atteindre ce niveau de réalisation personnelle. Il vous donne tous les objets qui vous permettent de vous aliéner. Donc c'est un totalitarisme, mais un totalitarisme d'un tout nouveau type. C'est un totalitarisme sans tyran, on pourrait dire. C'est pas pour ça que c'est soft, parce que ça peut être très dur. Quand vous aliénez vous-même, avec l'aide donc de cette instance-là, vous êtes, n'empêche, aliéné complètement. Et même, vous êtes peut-être d'autant plus aliéné que vous pouviez l'être dans, par exemple, le stalinisme. Puisque dans le stalinisme, bon, il m'oblige à aller défiler en criant les slogans qui sont les slogans à la gloire du petit père des peuples, etc. Mais je n'en pense pas moins. Je suis toujours, pour moi-même, je le dis pas, ou seulement avec mes copains, je suis toujours critique. Donc il pouvait y avoir le double langage. Dans le libéralisme, il n'y a plus de double langage, il n'y a plus qu'un langage. La consommation outrance, la réalisation pulsionnelle et passionnelle totale. Donc il n'y a même plus de double langage. Donc c'est un totalitarisme d'un nouveau type qui est aussi tyrannique, mais sans tyran, que les anciens totalitarismes.
Et qui oblige ceux qui ne se plient pas à ne pas se sentir conformes. On est non conformes.
Oui, voilà. Oui. Si vous ne vous pliez pas, vous êtes bizarre, vous êtes un peu fou, vous n'êtes pas dans le coup, vous êtes un vieux con, vous n'êtes plus dans l'air du temps, vous n'avez rien compris à ce qui se passe, vous n'êtes pas branché, vous n'êtes pas constamment nomade, vous êtes dépassé, vous êtes vieux jeu, vous êtes un vieux réac, vous êtes, tout ça. Donc, on stigmatise, disons, celui qui n'obéit pas donc à cette injonction de réalisation pulsionnelle par le jeu de la consommation à outrance, qui se présente comme la seule chose qui peut sauver les sociétés, puisque ça fait augmenter le PIB, sans s'apercevoir que ceci produit des effets qui sont des effets à long terme sur l'exploitation outrance et le déséquilibre de la nature, des forces productives, et le déséquilibre, donc, déséquilibre naturel.
Et comment on s'en sort? Parce que je pense quand même que je ne suis pas très singulière en étant particulièrement has-been. Je pense qu'on est nombreux. Oui. Michia parle de, d'ailleurs de Common Decency.
Oui, exactement. Exactement, oui.
Et qui en fait un espèce de bon sens commun qui fait que...
Oui, bien sûr.
Bah, oui, on n'a pas les choses sans effort.
Oui, voilà.
Voilà. Ça, ouais. Mais comment on s'en sort? Parce que finalement, peut-être bien qu'on est majoritaire dans les faits.
Oui.
Finalement.
Oui, oui.
Et alors que... toute une sphère qui passe par les médias pour l'aspect sociétal, on pourrait dire, et politique, mmh. Par, et la droite et la gauche. Mais comment on peut inverser ce courant, puisqu'on mmh. est d'un certain côté, mmh. moi je pense quand même majoritaire.
Oui, moi aussi je pense qu'on est majoritaire, oui. Ça apparaît d'ailleurs par effraction. Par exemple, à l'occasion du référendum sur Maastricht, mmh. Donc il fallait, c'est ça la bonne voie, on voit où ça mène maintenant. La généralisation de l'euro, etc., à des économies si différentes, c'est une catastrophe. Bon. Donc, on avait intuitivement raison de dire non. Et à un certain moment, ça s'exprime comme ça. Ben, je crois qu'il y a deux solutions. C'est-à-dire que tous ces petits actes de résistance individuelle, qui donc tendraient à nous stigmatiser, il faut les multiplier. Il faut les échanger entre nous, par tous les moyens possibles, par des blogs, par des radios... par des bouquins, par il faut diffuser tout ça au maximum. Dans cette mesure-là, par exemple, l'existence de blogs, pour moi, est une bonne chose par rapport, est une excellente chose même, parce que ça se fonde avec rien, avec deux sous, alors que la presse est absolument muselée et contrôlée. Donc, tout ce qui développe cet esprit de résistance individuelle dans tous les domaines, dans le domaine... qu'il faut continuer à aimer la princesse de Clèves, qu'il faut continuer à la lire, qu'il faut continuer à penser, il faut continuer à résister, il faut détourner des usages dominants, etc. Tout ceci doit être développé par chacun et popularisé, généralisé au maximum par tous les moyens actuels de popularisation et de généralisation. Et puis je pense qu'on arrivera un jour à une expression politique, parce que ceci n'aura aucune chance de réussir s'il n'y a pas une expression politique un jour qui fait que l'intérêt collectif qui est uniquement représenté par le politique, représenté, je veux dire, en termes de... Il peut être représenté par des individus, mais en termes de, disons, d'orientation sur les décisions majeures à venir dans le monde. Ça ne peut être que sous une forme politique. Je pense que tout ça trouvera une forme politique. Il faut déjà réfléchir à une forme politique complètement nouvelle. Je veux dire, ça ne peut être ni les anciens stalinismes, ni la gauche libérale, ni ceci. Il faut qu'il fait qu'on soit majoritaire, comme vous le dites si bien, ne pourra se marquer et s'imprimer. Donc il va falloir... Alors là, c'est tout un réinventer là-dedans. Hein. Ça peut être... pas nécessairement un parti, mais plusieurs partis qui s'entendent, qui vont dans des sens un peu différents, mais il va falloir respecter donc des formes de divergence d'avis, de discussion permanente, parce que la discussion permanente est évidemment toujours très très riche, donc il faut des avis différents, etc. Mais je pense qu'on n'échappera pas à l'idée d'aller vers la constitution d'une force politique.
Et voilà, c'était la troisième partie de l'entretien réalisé avec Dany Robert Dufour. Troisième partie qui, je l'espère, ne peut que vous donner envie de reprendre l'entretien depuis son début pour en sentir toute la profondeur. C'est qu'en fait, je culpabilise un peu. Tout au long de cet entretien, Dany Robert Dufour a cherché à être pédagogue, à m'accompagner dans la compréhension des grandes questions évoquées, à me remettre les choses en perspective, à moi, celle qui, justement, avait loupé des épisodes. Aussi, sans doute, n'ai-je pas réussi à bien mettre en valeur toute la profondeur de sa pensée. Je ne peux donc que vous inviter à lire à votre tour L'individu qui vient après le libéralisme, publié récemment chez De Noël, mais aussi sa trilogie précédente, L'art de réduire les têtes, Le divin marché et La cité perverse. Bientôt, je recevrai François Flahaut, philosophe, animateur d'un séminaire d'anthropologie philosophique à l'école des hautes études en sciences sociales, auteur entre autres du Paradoxe de Robinson en 2003 et de Où est passé le bien commun en 2011. À bientôt.